Jeune, comment bien choisir vos objectifs de vie? C'était le thème du témoignage de Jean-Paul Béchu, témoignage enregistré au lycée Saint-Louis-Villapia à Bayonne le 16 mars 2022 lors d'une soirée proposée par les associations familiales catholiques du BAB. Enfant adopté, ballotté d'une famille d'accueil à l'autre, adolescent rebelle, mais aussi entrepreneur à succès, patron philanthrope, créateur du fonds Espelancia, Jean-Paul Béchu témoigne de son parcours et de sa vision de l'entreprise. Jeune, comment bien choisir vos objectifs de vie? Voici ce témoignage de Jean-Paul Béchu.
Merci surtout à vous d'avoir pris le temps de venir m'écouter. Donc je m'appelle Jean-Paul, je suis aujourd'hui, j'ai 64 ans pour encore quelques jours. Je suis marié, j'ai 4 enfants, 4 petits-enfants. Tu as parlé d'Espérantia, qui est au service de la fragilité et de la réinsertion, dont je m'occupe aussi. Et les gens, souvent, me disent « tu as de la chance parce que tu as réussi ta vie ». Alors j'aimerais vous parler de ce parcours qui m'a amené, alors que je n'étais ni prédisposé au bonheur ni à la réussite, comment le bon Dieu m'a permis d'y arriver. Effectivement, ça m'a commencé. J'ai été abandonné à un an, né de père inconnu. Et j'ai été dans des familles d'accueil qui n'étaient pas très accueillantes, puisque il a fallu que je me batte pour me nourrir. Je l'ai su, alors je n'ai pas beaucoup de... j'ai aucun souvenir de cette époque-là, mais quand je suis arrivé dans une famille qui plus tard m'a adopté, je planquais la nourriture un petit peu partout. C'était sans doute la preuve que je manquais de victuailles et j'avais peur qu'on me pique ce que j'avais dans mon assiette, donc je mangeais extrêmement vite. Et ils s'en sont aperçus parce qu'il y avait des petites souris qui se baladaient partout, donc ils ont trouvé toutes mes planques et au bout d'un moment, j'avais plus de planques. L'adoption, c'est je vais en parler un petit peu parce qu'on m'a invité à le faire. Quand vous êtes abandonné, c'est la preuve d'un non-amour. Et donc c'est une blessure qui cicatrise quasiment jamais. Et donc si vous connaissez des enfants qui sont adoptés, les parents qui ont adopté, il y a généralement beaucoup de souffrance. Parce que ça devrait être un beau cadeau, celui de pouvoir accueillir un enfant. Un beau cadeau pour les parents qui se retrouvent en capacité de donner de l'amour et puis un cadeau pour cet enfant de pouvoir recevoir cet amour. Mais cette blessure fait tellement mal en fait, il génère à la fois de la colère pour l'enfant parce que dès qu'il y a un petit problème, il se dit « mais mes parents, eux, ils ne peuvent pas me comprendre, ce ne sont pas mes parents ». Et à l'inverse, les parents ne comprennent pas pourquoi, malgré tout l'amour qu'ils donnent à cet enfant n'est pas en capacité d'aimer. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Et j'ai une chance incroyable, c'est que mes parents ont voulu se débarrasser un petit peu de moi, parce que j'étais colérique, je le suis toujours, mais pour d'autres raisons. Moi, la colère, c'est un de mes moteurs. Et donc, ils m'ont mis au scoutisme. Ça a été une bénédiction, le scoutisme. Parce que, à cette époque-là, je portais un nom compliqué. Je devais porter le nom de mon nom de naissance, qui était Dubois. Et attaché, on m'appelait Dubois dit Béchu. Béchu, c'était le nom de la famille qui m'avait accueilli. Et donc, il y en a quelques-uns qui ont fait du scoutisme. Ouais, le scoutisme, donc, a été pour moi une bénédiction, parce que, malgré ce nom, chaque fois qu'on me demandait comment je m'appelais, je devais dire « Dubois dit Béchu ». Et les gens me demandaient l'histoire de mon nom. Donc, je disais que c'était un nom aristocrate, mais non, finalement, on ne croyait pas beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a sauvé dans le scoutisme, c'est que j'avais un uniforme qui faisait que je ressemblais à tous les autres. Et j'étais accueilli comme l'un des leurs. Et donc, ça a été. Et j'ai pu pouvoir. J'ai pu. Donc, j'ai appris à ce moment-là, j'avais une place dans la société. Parce que c'est quand on est abandonné, on a l'impression que voilà, on n'a pas voulu de nous. Et plus que ça, un enfant qui a été abandonné, il finit par se persuader qu'il a été abandonné et que c'est de sa faute. Et que c'est, en fait, il le mérite bien d'avoir été abandonné. Alors vous imaginez, un bonhomme de 3 ans, il n'y a pas pour grand-chose, mais il porte ça avec lui. Et donc, manque de place dans la société, là, je découvre que j'ai une place et que je découvre que j'ai quelques talents. Alors, ceux qui font du scoutisme, vous savez, ce service qui embête tout le monde, la vente de calendrier, pour moi, ça a été une bénédiction parce que je me suis aperçu que je vendais, j'ai été le meilleur vendeur qui soit. Et donc, à ce moment-là, quand la vente de calendrier arrivait, je faisais tous les immeubles, on était en région parisienne. J'en ai acheté un hier dans la famille qui m'a accueilli à Pau. Et donc, voilà, ces activités scouts permettent de révéler des talents et j'ai appris que j'avais d'autres de talents et que j'ai appris quelque chose d'important, c'est que comme je voulais exister, je faisais toutes les conneries de la Terre. Donc je mentais, je trichais, je m'inventais des mondes, et c'est important quand on adopte un enfant de le soustraire à son imaginaire. Parce que forcément, il s'imagine la tête de ses parents, et donc il vit dans un monde totalement virtuel. Une autre chance. Alors déjà dans le scoutisme, je me suis aperçu que le bon Dieu n'était pas loin. Et j'ai toujours eu ce sentiment que quelque part il y avait bien un Dieu qui veillait sur moi. Arrive ma confirmation, là j'en ai la certitude, jour de cette confirmation, je sens que l'Esprit Saint existe et qu'il faudrait que je lui confie ma vie. Mais bon, c'est un petit passage, je chante à tue-tête, Vénique et à tort, Spiritus, je ne comprends rien de ce que je dis, mais je gueule vraiment plus fort que les autres, comme si je voulais vraiment avoir la preuve qu'il existe. Autre événement important, je suis en pension, et un jour, mon père adoptif, c'était la seule personne avec laquelle je m'entendais bien dans la famille, mon père adoptif meurt. Et on me dit qu'il est décédé d'une crise cardiaque. Et je suis là en train de parce que pour moi c'est un nouvel abandon. Donc pour moi c'est terrible. Et je suis là en train de morfondre, en train d'imaginer que je suis l'enfant le plus triste et le plus malheureux de toute la Terre. Et il y a un garçon qui passe devant moi et qui me dit « Que fais-tu cet après-midi ?» Et je dis « Rien ». Et il m'ordonne... une voix, viens, suis-moi. Je vous rappelle quelque chose, non? Et moi qui suis plutôt un berger qu'un mouton, je le suis. Et il m'emmène dans une partie de Pontoise qui est quartier extrêmement pauvre à l'époque. Et je me retrouve nez à nez avec une madame mouton qui ouvre une porte. Et Frédéric, ce garçon qui m'a amené là, va dire ben, Jean-Paul, je te présente Madame Mouton, c'est Jean-Paul. J'ai plus le temps de venir vous voir, donc c'était une voir cette personne dans le cadre de Saint-Vincent-de-Paul. J'ai plus le temps de venir vous voir, donc c'est Jean-Paul qui va prendre ma place. Je regarde Madame Mouton. Et finalement, on est mis devant le fait accompli et on va essayer de s'apprivoiser. Et là, je découvre que malgré mes fragilités, j'ai la possibilité de, non pas de rendre quelqu'un heureux, mais de le faire sourire et de changer son quotidien. Et je découvre donc à cette occasion que s'occuper des autres en heureux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé au fond de mon cœur. Je continue à faire mes conneries parce que je, voilà, j'étais toujours aussi révolté. Je mentais toujours autant, je volais toujours autant. Mais c'était quelque chose d'extrêmement fort. Ma famille qui m'adopte ne sait pas m'aimer et je ne sais pas accepter son amour. Et Il y a énormément de tensions, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. En fait, je vais l'apprendre quelques années plus tard, lors d'un mariage d'une de mes sœurs. J'ai un oncle qui avait bu un peu trop et qui lâche une parole qui me met un peu la puce à l'oreille et je fais semblant d'être au courant. Et il me révèle que mon père adoptif était mon vrai-père et qu'il ne s'est pas, il n'est pas mort d'un arrêt cardiaque mais qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Et donc je suis extrêmement colère d'abord. Et quelque part heureux, en colère parce que il aurait pu me laisser me parler, me dire que c'était lui mon père. Il aurait pu, il m'a volé en fait, il m'a volé beaucoup de choses en fait, et je lui en veux beaucoup. Mais quelque part, je suis aussi reconnaissant parce que j'ai un père. Et cet homme-là, j'en étais, enfin, je me sentais assez proche de lui et je voulais lui ressembler. Vous voulez que je vous dise quand même un bout, parce que c'est, on a l'impression que c'est une histoire triste et en fait c'est une belle histoire. Donc je vais faire un saut, d'accord? Ça vous va? Bon, parce que je vois vos mines déterrées, là je vais vous perdre. Je vais vous perdre. Il y a 6 ans, je rentre à la maison. Et je prends le courrier, et dans cette la boîte aux lettres, il y a une enveloppe un peu épaisse avec une écriture d'une personne d'un certain âge. J'ouvre cette enveloppe et je trouve une lettre sur un papier brouillon. Bon anniversaire Jean-Paul, vous n'êtes pas un enfant de la DAS, vous êtes d'origine bourguignonne, vous semblez avoir une belle vie, j'ai un secret, mais je ne m'immiscerai pas dans votre vie, signé Marie. Et avec ça, 6 photos, 3 photos d'un bébé que je ne connais pas, et 3 photos de moi à l'âge de 5 ans, 5-6 ans. Et je ne sais pas très bien quoi penser de cette lettre. Et je finis par appeler un détective à Chalon-sur-Saône. Parce que sur l'enveloppe, il y avait ce que j'imaginais, un code postal 21530. Et je lui dis, écoutez, je sais que je connais le nom de ma mère, puisque voilà, c'est sur l'état civil, et puis j'ai les 21530. Et une semaine après, il m'appelle en disant, je l'ai trouvé. Vous avez trouvé ma mère? Oui, j'ai trouvé votre mère. Et en fait, 21530, ce n'était pas le code postal du village, c'était un centre de tri. Et j'ai regardé autour de ce centre de tri s'il n'y avait pas dans la base de données des propriétaires immobiliers une dame qui avait le nom de votre mère. Et j'en ai trouvé une qui a le même âge. Ouf. Alors moi qui l'ai toujours imaginé d'une certaine façon, je vais être en face de la... Ben je l'appelle, je dis voilà, je l'appelle. Donc ma femme Sandrine était à mes côtés. Et donc je fais le numéro, ça décroche, une femme qui répond. Et je lui dis ben voilà, je vous appelle parce que je voulais vous remercier pour la lettre que vous m'avez envoyée pour mon anniversaire. Et elle me dit monsieur, non, vous faites erreur, c'est pas ici. Puis j'entends une voix qui grogne derrière. Je dis ben écoutez, vous n'êtes pas seul, donc je me permettrai de vous rappeler plus tard. Et là, un silence qui a duré une éternité pour moi, et elle me lâche, ah, ça y est, je sais qui vous êtes. Et puis à nouveau, la voix qui grogne, je dis, bah, écoutez, on se rappelle plus tard. Non, non, c'est Gaston, mon mari. Il connaît toute l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai découvert ma mère au téléphone, il y a 6 ans. Et donc, je lui dis, peut-être qu'il faudrait qu'on se voit. Peut-être, oui. Je ne chantais pas un enthousiasme fou. Et elle a débarqué pendant 15 jours, 15 jours après. Et j'avais de la chance parce que j'ai mes 4 enfants qui étaient là. Et donc, je vais la chercher au Mans. Et on s'embrasse. Et elle me dit, oh, ça y est, c'est fait. Comme si son sac à dos était débarrassé du poids qu'elle portait depuis autant de ces années. Et il y a eu un moment extrêmement touchant, c'est que, à un moment donné, elle regarde mes enfants en me disant, mais pourquoi vous n'êtes pas blanc, vous? Les enfants, ce père était blanc. Papa blanc, mais bon, je l'ai vu avec des cheveux, donc en plus, blanc. Et elle a dit, je vais vous le prouver. Et elle ouvre son sac à main, son porte-monnaie. Dans le porte-monnaie, il y avait une enveloppe, et dans cette enveloppe, il y avait une mèche de cheveux moulons. Et elle dit, ça ne m'a jamais quitté. C'est une belle histoire, hein? Bon. J'en étais où avant? Je pars parce que cette famille m'a trompé et je pars aux États, je pars de, je pars de, je veux faire des je veux avoir mes racines ailleurs et je vais d'abord saisir toutes les occasions qui se présentent. Et la première occasion, c'est mon voisin de pension qui était un Iranien et qui me propose, un membre de sa famille me propose d'aller travailler en Iran. Donc j'ai un peu plus de 18 ans. Je vais faire plein de petits boulots, monter une centrale d'achat. J'ai peur de rien. Je suis tellement orgueilleux que j'ai l'impression que je suis le plus intelligent de la Terre, que je vais tout réussir. J'ai un orgueil démesuré. En fait, ce que je veux simplement, c'est attirer et mettre la lumière sur moi pour prouver que j'ai le droit de moi aussi d'exister. Donc je m'empuie, sauf à moi-même, et je relève toutes les opportunités. Et là, je pars dans un pays que je ne connais pas, je ne parle pas la langue, et je commence à travailler pour la famille, pas la vie, c'était la famille impériale à l'époque. Et j'ai investi notamment des capitaux de cette famille dans l'immobilier en France. Vous imaginez, à l'âge que j'ai, faire des trucs comme ça, c'est quasiment pas possible, quoi. Je suis dans un monde où les jeunes, bouchez-vous les oreilles, je suis attiré par la lumière, je mène une vie de bâton de chaise. Je suis émerveillé par l'argent, tout ce qui est clinquant. Et puis, ça va être quelque chose d'assez répétitif dans ma vie. Il y a une révolution. Alors, les révolutions, c'est pas répétitif, c'est occasionnel. J'en ai connu qu'une seule, mais c'est le fait de tout perdre. Je vais tout perdre. Tout l'argent, j'avais gagné déjà beaucoup d'argent. Je suis obligé de tout laisser en Iran, de partir comme voleur. Et je redémarre au bas de l'échelle. Et je décide d'aller dans un autre pays, au Canada. Et là, je vais vivre ce que vivent tous les gens qui n'ont pas de papier et qui ont envie de comment dirais-je, de vivre, de se nourrir. J'ai fait tous les métiers. Tous les métiers, alors vous pouvez les imaginer. On commence par serveur, cuisinier, les pizzas. Comme j'étais pas suffisamment rapide parce que je mettais un peu trop de. Les faits, je me suis retrouvé faire la plonge. Et puis, j'ai travaillé dans le bâtiment avec des mafieux qui faisaient travailler des gens qui n'avaient pas de papier, et ainsi de suite. J'ai même été professeur de danse. Oui, mademoiselle, j'étais un assez bon danseur. Parce que j'avais fait des claquettes. Et les plus âgés, d'un coup, je ne sais pas si vous vous souvenez de la gifle, avec Dino Ventura, il y a toute une séance qui se passe dans une salle de claquettes. Eh bien, je n'y étais pas. Par contre, j'ai participé à tous les entraînements. Et le jour de la prise de vue, j'étais malade, j'ai pas pu. Je manque de bol de temps en temps. Je finis par faire des études. Et ma famille qui m'a adopté me paye une partie de mes études aux États-Unis. Je reviens en France. Là, j'ai 24 ans, je fais des études en moins de 2 ans, des études de management. et je reviens en France pour faire mon service militaire. Et là, je suis saisi par la façon dont, dont l'administration fonctionne. Et il y a des militaires dans la... Oui. Il y en a beaucoup ou non? Un seul?
Des femmes de militaires.
Des femmes de militaires. Bon, bon, c'est gentil ce que je veux dire. C'est pas bon, je sais pas. Je décide de faire quelque chose de ce service militaire. Et donc, y a des jeunes qui ne savent pas lire. Et donc, je décide de leur apprendre à lire. Et un jour, ils ne viennent pas. Et on est sur une base de radar. Et je demande où ils sont. Et en fait, ils sont au poste de garde pour vérifier l'identité de ceux qui laissent rentrer. Alors, j'essaie d'expliquer que ça ne sert pas à grand-chose parce qu'ils ne savent pas lire. Mais on m'a dit non, c'est comme ça, c'est les ordres. Voilà. Suite à ça, je veux retourner aux États-Unis. Et je réponds à une annonce. Les jeunes, vous allez avoir plein d'opportunités dans la vie. Il y a ceux qui savent ouvrir les yeux et qui savent les saisir, et puis les autres qui laissent passer leur chance. Vous savez, ces opportunités, c'est une histoire d'attention. C'est amusant parce que dans mon livre, je voulais parler justement de cette soi-disant cette chance. Et je vais vous raconter cette anecdote, je ne sais pas quoi dire sur la chance. Et j'arrive à la gare du Mans, et je descends en dernier, je ferme mon ordinateur, et puis devant moi, il y a 200 personnes qui sont sorties des wagons, qui sont passées devant la porte, et je fais trois pas, je baisse le regard, et il y a une médaille d'or qui est sur le quai. Eh bien, les opportunités dans la vie, c'est la même chose que l'acuité du regard. Il faut être disponible. Et malheureusement, on reparlera de ces machins-là qui nous empêchent d'avoir cette disponibilité et d'être en capacité d'éveil. Donc, je réponds à une annonce de quelqu'un qui cherche un précepteur pour ses enfants et aux États-Unis. Un précepteur, c'est, vous savez ce que c'est les jeunes, hein, c'est quelqu'un qui éduque des jeunes. Et l'annonce disait c'est idéal pour quelqu'un qui veut faire un MBA, donc des études supérieures, et c'est à Beverly Hills. Et donc je dis ça c'est pour moi. Je me rends avec un bouquin en anglais sous le bras pour faire bien. Je suis encore toujours très con à cette époque-là. Je le suis encore un peu aujourd'hui, mais un peu moins. Et voilà, une grosse tête. Et je me dis, je vais réussir, c'est moi qui va prendre. On fait poireauter, et puis pendant des 2-3 heures, et on est pas reçu. Donc les jeunes partent, et il y a de moins en moins de concurrence. Et puis arrive mon tour, et je rencontre ce milliardaire, qui était un fou furieux. Mais j'ai toujours aimé les gens qui étaient un peu hors du commun. Et je finis par sympathiser, il me raconte des histoires, comme quoi il était dans des forteresses pendant la guerre, et il était tirailleur, et il a descendu plein d'avions. Voilà, il habite Los Angeles, il habite Acapulco, à New York, Londres, Paris, Saint-Tropez. Fantastique, voilà, à cette époque-là, les lumières, la jet set, c'est fantastique. Il a des copains qui sont dans les bouquins d'histoire. Et je me dis, il faut absolument que je sois sous l'eau. Trois semaines après, il m'appelle en disant, écoutez, j'ai donné le boulot à un autre. Je dis, merde, pourquoi il m'appelle pour me dire ça? C'est quand même pas le papa de Tom. Il me dit, mais écoutez, je viens d'acheter une petite société de 15 000 personnes. Deuxième société de nettoyage industriel. Au niveau des achats, il y a plein de vols et je pense que vous êtes fait pour les affaires, donc je vous donne le poste. Je ne sais pas trop quoi vous pensez. Et puis finalement, je me suis dit, je fais la taille de cette mission, bien sûr, je vais y arriver. Je réalise ce qui se passe quand j'arrive à New York. J'arrive dans une chambre d'hôtel qui était incroyable. Et quelques jours après, j'ai un fournisseur de papier. Qui m'appelle pour me dire quand est-ce qu'il peut envoyer son jet privé pour venir me chercher pour que je visite les usines. Donc vous imaginez l'ego d'un jeune qui a 24 ans, qui connaît rien de rien, qu'on met en poste de responsabilité, Je suis entouré de gens qui ont plus de 50 ans et qui se disent qu'est-ce que c'est que ce petit con qui connaît rien, qui nous explique la vie. Donc ils m'ont mis des pots de banane. Je mène toujours une vie complètement fou, on double mon salaire tous les 6 mois, c'est totalement indécent. Et bon Dieu, il en a eu marre. Il a choisi un messager. Je peux vous dire que, si j'oublie de le dire, le Seigneur vit à nos côtés. Il nous envoie régulièrement des messagers. Et c'est, si on n'est pas attentif aux autres, on est en incapacité de s'apercevoir que c'est Dieu qui veut nous dire quelque chose. Donc il m'envoie un messager, ce messager s'appelle Jay. Jay, c'est le responsable de la warehouse. La warehouse, c'est là où on stocke la marchandise. Et je le vois un jour, un matin, je dis « Jay, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas bien ?» Et il me dit « Quoi? Pourquoi ?» Ben, je dis « Jay, t'as toujours une canette à la main et aujourd'hui t'as pas de canette. » Et il me fusille du regard en me disant « Mais c'est le carême. » Et là, j'ai une petite voix intérieure qui dit « Dis donc, toi aussi, t'es chrétien, qu'est-ce que tu fais de ton carême ?» Premier coup de semonce. Quelques semaines après, je comprends que cette vie-là, c'est pas celle que je veux, parce que ce que je veux, ce à quoi j'aspire le plus, c'est de créer une famille et d'aimer comme je n'ai jamais été aimé. Et que là, c'est une vie totalement trop loin de ce que je veux, donc j'abandonne cette vie. Et quelques semaines après, je me trouve dans une maison qu'elle m'a prêtée, que me loue, non, parce que il était un peu un curé irlandais. C'est une maison au nord de New York, on connaît avec elle pour ceux qui connaissent. Et j'avais la mer qui était juste en face, c'était magnifique. Je vais dans ma salle de bain, je prends une douche, et là j'ai une force qui me terrasse. Et je me retrouve à genoux en train de pleurer comme une madeleine. Et en disant au Seigneur, je te demande pardon, j'ai une vie de con et je sais pas. J'ai vraiment besoin que tu diriges ma vie et j'aimerais que tu me redonnes le baptême. Et depuis ce temps-là, le Seigneur a jamais quitté ma main, même si moi j'ai tenté de la retirer à plusieurs reprises. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu mettre du sens dans ma vie et de tout faire pour mettre le Seigneur au cœur de cette vie, de toutes mes vies. Et donc, pour me remercier, quelques minutes après, je lui dis, non, c'est le Seigneur. Je réalise quand même ce que je viens de lui dire, que je suis prêt à le suivre. Et je me dis, merde, j'ai peut-être poussé le bouchon un peu loin. Et je l'interpelle en disant, je veux bien te suivre, mais surtout, je veux pas devenir saint. Et sur ce coup-là, il a fait ce qu'il voulait, donc je suis pas saint. Donc il m'a écouté. Toujours est-il que je fais faire de la petite électronique, je monte une société, une parmi les 13 autres que j'aurais créées, et je fais faire de la petite électronique en Asie. Alors les zones, pourquoi je me suis embarqué là-dessus? Là aussi, c'est parce que j'essaie d'écouter et je passe beaucoup de temps à... vous savez, quand on a parlé de scoutisme, le sens des autres. Le sens des autres, ça veut dire vraiment se connecter à l'autre. Là, on a parlé de ces outils-là qui empêchent cette connexion. Quand on a ce sens de l'autre, réellement, dans toutes ces activités, c'est la réussite dans tous les secteurs, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle. Le sens de l'autre est un outil fantastique pour réussir sa vie professionnelle. Parce que les autres, si vous les écoutez, ils vous donnent des éléments qui vous font réfléchir, qui vous mettent sur la piste. Et donc, vous voyez, par exemple, pour avoir l'info, par exemple, que chaque fois que je prends le train, moi, je voyage toujours dans le bar. Et je rencontre plein de gens qui me racontent plein de choses différentes. Et j'arrive à avoir beaucoup de création parce que j'écoute les autres, et quand on écoute les autres, il y a des besoins qui sont exprimés. Et Le mon Dieu a décidé que c'était pas là où je devais aller. Et il a décidé d'appuyer sur le bouton fast. Et donc je fais faire cette électronique en Asie. Et la marchandise arrive après l'échéance du système de paiement. On appelle ça une lettre de crédit. En fait, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que ma marchandise, j'ai plus de garantie d'être payé. Alors qu'avant, tout ça parce que la marchandise est passée d'un avion de Los Angeles à Chicago, alors qu'il aurait dû faire Los Angeles-Boston. Et donc là, j'ai un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne, je vends, enfin, je livre la marchandise ou pas à mon client? Je décide de le livrer et je l'aide. Pourquoi? Parce que dans son bureau, il y a une photo de la Vierge. Et je me dis, ça doit être un bon gars. Et ben, c'était pas un bon gars. Et donc, et je le sais quand le camion part, je sais qu'il y a un truc qui se prépare. Et quelques jours après, le chèque qu'il m'a donné revient payé. Et en fait, il avait préparé son coup. Et je perds tout, une nouvelle fois. Et mon avocat, à l'époque, m'a dit, écoute, repars en France, quand les jours iront mieux, je t'appellerai. Et donc, comme j'imagine que je vais rester quelques jours en France, je pars d'un boulot compliqué, je veux quelque chose qui me rapporte de l'argent tout de suite. Et j'appelle quelques copains, et j'en ai un qui est concierge au Ritz. Vous connaissez les jeunes ce que c'est qu'un concierge au Ritz? C'est un des hôtels 5 étoiles les plus luxueux. Et il me dit, écoute, si t'as pas peur, il y a un poste de voiturier qui correspond au fait qu'il faut ouvrir les portières des voitures, puis tu les refermes, et tu tends la main pour avoir un pourboire. Un vie sous ton âme, ça. Et je rencontre plein de gens, et certains d'entre eux, que j'avais vus aux États-Unis, donc je me cache, j'ai honte d'être retenu en bas d'échelle. Et en 2 mois, j'ai suffisamment d'argent pour monter une entreprise. Et je veux monter une entreprise qui a du sens. Donc j'ai beaucoup de mal. Mais en fait, avec ça en tête, il y a une stratégie qui est claire. Mais voilà, je vis, moi qui ai vécu dans le luxe, dans cette vie éphémère, le bon Dieu me met un peu purgatoire pendant quelques années. Et je sens que c'est pour celle que je pourrais aimer, c'est le passage obligé pour me dépolluer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Vous voulez que j'en parle de celle qui a changé ma vie? J'embauche un jour une jeune femme que je trouve très intelligente. Et le problème, c'est qu'elle parle beaucoup avec mon associé et peu avec moi. Et un jour, je décide de l'inviter à dîner. Et je viens d'écouter. 2 jours et demi après, qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Mariage, je lui ai demandé sa main. Mais si! Elle a mis beaucoup de temps pour me répondre parce qu'elle a mis 24 heures. Et je flippais en me disant est-ce qu'elle va accepter ou refuser. Le bonheur, ça se décide. Qu'est-ce qui fait que je suis encore plus redingue de Sandrine aujourd'hui que je l'étais quand je lui ai demandé sa main? C'est que on s'est donné totalement l'un à l'autre. C'est pas uniquement le côté physique, c'est le fait que ma vie, j'ai décidé que ma vie, c'était rendre Sandrine heureuse. Et vous comprenez bien que si c'est réciproque, qu'est-ce qui se passe? C'est le bonheur intégral. Donc, les jeunes, il n'y a pas besoin de... Je vois trop souvent parce qu'on a peur d'être seul. de se retrouver tout seul. Et donc, il y a trop souvent des couples qui se forment, qui sont pas des couples, c'est des positions d'attente. Mais quand vous êtes dans des positions d'attente, si l'autre, je vois des sourires, donc on voit bien que c'est des choses que vous connaissez autour de vous. Si on est dans une situation, on n'est pas dans une situation d'attente, ça veut dire que l'autre qui est fait pour vous peut passer et vous voyez occupé, passera son chemin. Donc si vous voulez vivre une vraie histoire d'amour qui dure toute la vie, eh bien sachez l'attendre. Et moi qui ai un peu trop aimé les femmes avant Sandrine, mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas su l'attendre. Voilà ce que je voulais dire sur Sandrine. On parlait de la blessure de l'abandon, qui n'arrivait pas à cicatriser. Alors tiens, je vais continuer pendant qu'on parle du mariage. Hein, quand je vois ces jeunes qui, vous les filles surtout, hein, qui voulaient mettre des croix en disant voilà, il faut qu'ils soient grands, ok, ça c'est bon, ça, il faut qu'ils soient gentils, ok, et puis merde, il y a toujours des croix qu'on n'arrive pas à mettre. Il y a ce qu'on appelle les grâces du mariage, qui sont réellement données à partir du moment où, quand on se donne l'un à l'autre et qu'on demande à Dieu de nous tenir tous les deux par la main, c'est un bonheur qui est explosif, qui irradie. Vous voyez des amoureux de temps en temps, on ne sait pas ce qu'ils ont, mais autour d'eux, on a envie d'être autour d'eux et on voit que leur amour irradie ceux qu'ils rencontrent. C'est parce que Dieu est au milieu d'eux et que voilà, ils l'ont décidé. Et ils ont obtenu ces grâces du Seigneur qui font que petit à petit, on ne change pas l'autre, mais on vit avec les mêmes désirs. Je ferme la parenthèse. Je peux en parler pendant des heures. Et ça a été dur pour Sandrine parce que j'étais pas parfait. Je ne le suis toujours pas. Mais ces grâces ont fait que voilà, on a pu vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, je monte des entreprises, ça ne fonctionne pas bien du tout. On n'arrive pas à bouffer, j'arrive pas à nourrir ma famille. Et vous, les jeunes, si un jour votre papa, comme moi, vous convoque dans le. J'ai convoqué mes quatre enfants dans le canapé, je dis cette année, vous savez, on ne va pas pouvoir partir en vacances. Voilà, à travers mon regard, j'ai senti que j'étais pas à la hauteur du truc et qu'il fallait que je travaille très dur pour que ça n'arrive plus jamais. Entreprise, j'ai décidé de monter une entreprise qui a du sens. Et donc, la façon dont j'ai fait cette entreprise, c'est que j'ai décidé déjà que mon objectif n'était pas de faire de l'argent. Mon objectif était, comme j'avais une assurance et que j'étais habité par le fait que j'allais réussir, il fallait que je mette ça au service des autres. Parce qu'autour de nous, il y a des gens qui ont plus ou moins d'assurance, et il y en a qui n'ont pas du tout confiance en eux. Quand on a cette confiance, on doit essayer de la mettre au service des autres. Donc j'ai décidé d'embaucher ceux qui en avaient besoin, ou ceux qui frappaient à la porte. Et donc, je prends, comme Sandrine, j'ai pris la décision de l'épouser en 2 jours et demi, eh bien je fais des recrutements en moins de 5 minutes. Et donc avec moi, il n'y a pas besoin de revenir 36 fois. Parce que je pense que plusieurs choses. Alors on ne fait pas voir un homme qui n'a pas soif. Donc il faut déjà qu'il désire de l'autre de travailler et de s'impliquer dans l'entreprise. Ensuite, je pense qu'un manager, ça doit détecter les talents, parce que tout le monde a des talents. Vous, les jeunes, vous n'êtes pas sûr de vous, mais vous avez des talents. Et nous, les parents, Mais aussi les managers, on a un vrai devoir, c'est de vous aider à les découvrir. Et dans le cadre de l'entreprise, c'est de faire en sorte de mettre ses talents au service de l'entreprise et de ne pas demander à une personne qui a un talent d'en utiliser un autre et lui donner les moyens de réussir. Ensuite, il y a un autre ingrédient qui est extrêmement nécessaire, qui est la confiance. C'est un outil fantastique qu'on apprend dans le cadre du scoutisme. C'est non pas au dévolu de dire je te fais confiance, non, ça veut rien dire. C'est de s'asseoir l'un en face de l'autre, en se regardant dans les yeux, en disant je te donne ma confiance. Vous imaginez, on n'est pas digne, quel que soit le poste, la mission, on n'est pas digne de recevoir la confiance pour le poste, ou alors ça veut dire qu'on a un gros égo. Mais quand on reçoit cette confiance de cette façon, on se doit de faire tout son possible pour honorer cette confiance qui a été donnée. Et ça, ce mode de management fait des choses fantastiques. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma boîte, la dernière. Je l'ai montée avec 8 000 euros. Hein? 8 000 euros, c'est pas beaucoup, 8 000 euros pour une société. Et si je vous disais que vous tous, comme tous les Français, utilisez mes services de ma société. Ça vous embouche un coin? Ouais. Ben, c'est le cas. J'ai créé cette société avec 8 000 euros. Et qu'est-ce qui a fait que ça fonctionnait? Ben, c'est que j'ai essayé de vivre l'unité. Vous savez, on a souvent un problème, nous les chrétiens, c'est que le bon Dieu, c'est bien dimanche. Et puis un peu le matin, un peu le soir, et puis ça suffit. Et en fait, le bon Dieu, il veut, écoutez-moi les jeunes, le Seigneur, il veut votre bonheur et votre réussite sur la terre. D'accord? Donc il veut s'impliquer dans tous les moments de votre vie. Alors pourquoi l'empêcher d'être dans toutes vos vies et dans vos vies professionnelles. Combien de fois j'entends des chefs d'entreprise qui disent non, non, mais c'est pas possible. Mon Dieu, non, non, il y a le business, c'est le business. Hein, le bon Dieu est le meilleur coach au niveau business. On s'imagine que je suis vraiment brillant, que j'ai inventé plein de trucs, etc. En fait, je suis un imposteur. J'ai toujours demandé au bon Dieu de son aide. Chaque fois que je rencontre quelqu'un au niveau professionnel, que j'ai une négociation compliquée, je me demande d'être docile à l'Esprit Saint. Et ça fonctionne, donc je serais très con de pas l'utiliser. Et si nos entreprises fonctionnent aussi mal, c'est parce que ceux qui sont à la tête mettent le bon Dieu à la porte de leur entreprise. Donc j'ai effectivement fait confiance au bon Dieu aussi pour ma vie professionnelle. Et c'est ce qui explique qu'une petite société qui a démarré avec rien, avec des gens de bonne volonté, soit aujourd'hui un des leaders mondiaux dans son secteur et qu'elle soit utilisée par tous les Français qui se connectent sur Internet. On voulait derrière que cette société soit aussi au service du monde extérieur. Parce que vous savez, aujourd'hui, les systèmes sont des systèmes pyramidales, c'est-à-dire qu'il y a un patron, et puis il y a des chefs, et puis des sous-chefs, et puis les sous-chefs créent d'autres niveaux, parce que tout le monde a envie d'être chef. Ça, c'est l'ancien temps. Il faut qu'on crée des entreprises, et vous, les jeunes, hein, je fais une petite parenthèse, mais le monde qu'on vous laisse, c'est un monde de nuls. On n'a fait que des conneries à ma génération. Et donc, vous avez le devoir de bousculer ceux qui sont autour de vous pour vous ouvrir des portes pour transformer cette société. D'accord? C'est pas parce que vous êtes en phase d'adulte, qui ont deux fois plus votre âge, qu'il y a plus d'intelligence du côté de l'adulte et plus de sagesse. Malheureusement, notre génération n'a pas su prendre les bonnes décisions pour vous. Donc on est une vraie dette et il faut pas vous empêcher de nous le rappeler parce qu'il n'y a aucune raison qu'on vous laisse à faire le sale boulot parce qu'on n'a pas été en capacité d'agir. Je vais faire une petite, puisque je suis sûr là-dessus, ça veut dire que des gens qui étaient aux responsabilités n'ont pas travaillé pour le bien commun. On voit bien aujourd'hui, le pouvoir, il est dans le pouvoir financier. C'est les financiers qui dirigent le monde. Et quand on voit qu'il y a 19 familles qui détiennent autant de richesses que la moitié de la population mondiale, on voit bien qu'il y a un vrai problème. Donc on a un devoir de changer ça. Donc je reviens à l'entreprise, parce que sinon je pourrais en parler des heures aussi. Sur mon entreprise, je voulais qu'elle soit aussi au service de la société. Et donc on a créé quelque chose qui s'appelle Esperantia. Esperantia, c'est comme une fondation. Et on a innové avec Esperantia, voilà, en se disant il y a plein de gens qui font un travail associatif qui est fantastique, et tous ces gens, toutes ces associations, il leur manque de l'argent, des contacts et des savoirs. Eh bien, si on remplaçait l'administration qui donnait de l'argent à ces associations, si on les remplaçait par des entreprises qui apportent non pas de l'argent mais du capital, c'est-à-dire des types de sociétés, eh bien on pourrait bénéficier de la récurrence. La récurrence, c'est ce que c'est, les jeunes. C'est quelque chose qui revient régulièrement. La récurrence des dividendes et des bénéfices pour pouvoir accompagner ces associations. C'est ce qu'on a fait avec Esperantia, avec NameShield, puisque c'est le nom de ma société. On a donné 15% du capital à NameShield et 1% du chiffre d'affaires. Et avec ça, on a commencé à aider des associations qui sont dans la petite enfance, l'éducation et la réinsertion. Et je suis très fier parce que cette société, là aussi, c'est en tant que patron chrétien, la chose la plus intelligente que j'ai faite de ma vie, c'est que j'ai osé dire que j'étais un patron chrétien. Ben, une fois que vous l'avez dit, vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas prendre des décisions qui vont à l'inverse de ce que vous affirmez. Et je voyais bien dans le regard des gens qui venaient dans mon bureau avec leurs problèmes, toi le patron chrétien, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas résoudre mon problème ? Donc ça m'a évité de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais ces richesses, puisque je connais, j'ai connu ma mère, je sais d'où je viens, et en fait j'ai connu les deux mondes, un monde où on vit confortablement, et un monde où on vit un peu moins facile. Et comment se fait-il que on puisse tolérer cette inégalité? Comment se fait-il que ceux qui ont beaucoup reçu se satisfassent du fait que les autres qui ont moins bien reçu vivent en dessous de celle de la pauvreté? Comment se fait-il que des chrétiens puissent supporter cette inégalité entre frères? Parce qu'on est bien frères quand on est chrétien. Nous sommes tous frères. Donc quand je vous dis que je suis en colère, c'est parce que je pense que nous chrétiens, moi le premier, on ne fait pas suffisamment pour nos frères. On prétend avoir des frères, mais en fait, on agit au mieux pour notre famille et au pire pour nous-mêmes. Et ça, il faut que ça change. Et donc, je me suis dit, en fait, ces richesses, en fait, elles ne sont pas à nous. Toute la richesse créée par les entreprises, par nos investissements, tout ça, c'est pas à nous. En fait, c'est le Seigneur nous a permis de les avoir. Et en fait, on est simplement des gestionnaires du bien commun. Donc si on est gestionnaire et que ça ne nous appartient pas, il faut avoir un autre regard sur tout ce qui est valeur, sur ce qu'est l'argent. Et à partir du moment où on a un autre regard sur l'argent, eh bien, il est plus facile derrière de le partager. Donc j'ai décidé avec Sandrine qu'au lieu de garder toute cette richesse de l'entreprise pour nous, puisqu'il y avait des sociétés américaines et étrangères qui voulaient nous acheter, j'ai décidé qu'au lieu de leur vendre à eux, eh bien, j'allais donner une partie de cette richesse à mes collaborateurs. Et aujourd'hui, depuis un an, l'ensemble de mes salariés ont repris la société, sont actionnaires à 100% de la société et sont responsables de leur avenir. Je vais finir en vous disant, les jeunes, que ce monde, il reste à inventer. Que vous avez des talents en vous, mais que ces talents, vous saurez encore plus les faire éclore si vous demandez à celui qui vous les a donnés, c'est-à-dire le bon Dieu, d'accompagner vos vies. Et je peux vous dire que si vous faites cette démarche, parce qu'un père qui aime ne peut pas faire autre chose que vous sait témoigner son amour. Donc si vous lui demandez humblement de prendre votre main, comme je lui ai demandé, eh bien, il saura vous accompagner dans toute votre vie. Et ainsi, vous pourrez avoir des vies réussies et heureuses. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.
Jeunes, comment bien choisir vos objectifs de vie ? C'était le thème de la soirée témoignage avec Jean-Paul Béchu, proposée par les AFC, les Associations Familiales Catholiques du BAB, le 16 mars 2022, au lycée Saint-Louis-Villapia à Bayonne.